Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. Alors, c'est quoi le design ? Pour cette première émission de Futur Terrain, j'ai choisi de commencer par poser une orientation, une ouverture sur ce que peut réellement être le design. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, comme on l'entend souvent. Le design est avant tout une discipline de projet qui mêle forme, fonction et sens. On peut dire qu'il se situe entre deux notions proches, mais différentes, le dessin, qui renvoie à la représentation visuelle, et le dessin qui parle d'intention, de projet, de but à atteindre. Le design, c'est cet art de penser et de faire avec un dessin clair. Donner du sens à la forme, organiser les fonctions, mais aussi imaginer et construire des mondes possibles. Victor Papanek, designer pionnier du design social et environnemental, a milité pour un design responsable qui répond avant tout à des besoins réels, sociaux et environnementaux. Il critiquait le design superficiel et inutile, prônant une conception éthique utile et accessible. Pour lui, le design ne se résume pas à l'esthétique. C'est inventer des solutions qui transforment notre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Le design, c'est aussi une pratique et une pensée qui transforme nos usages et nos environnements en plaçant l'humain et ses besoins au centre. Mais cela soulève une autre question. Le design doit-il toujours apporter des réponses ? Dans cette période de grands changements, on pourrait croire que le design va sauver le monde. Je ne pense pas. Mais ce serait plutôt un art qui pose les bonnes questions. Le designer observe nos usages, questionne nos habitudes, crée des objets, des espaces, des services, voire des expériences. Pourquoi ? Tout cela pour réinventer notre quotidien, notre lien à notre environnement. Catherine Chomara-Ruiz, elle est philosophe du design. Et cette discipline est une conception ouverte, selon elle, qui ne se limite pas à la fabrication d'objets, mais qui engage un processus complexe de traduction entre différents savoirs, cultures et usages. Le design s'inscrit à l'intersection du sensible et du fonctionnel. Il écoute les besoins du monde pour proposer des réponses à la fois créatives, critiques et éthiques. Elle dit « Le design est une pratique de projet, dont la finalité est l'amélioration de l'habitabilité du monde dans le respect des humains et des non-humains. Et il y a fort à faire. » Dans chaque épisode de Futur Terrain, je vous invite donc à explorer ce design territorialisé au service de l'habitabilité du monde. Nous y questionnerons alors les enjeux nouveaux du design sur nos territoires et partirons à la découverte de ces frontières, celles qui réinventent nos façons d'habiter, de créer, de vivre ensemble. Bienvenue dans Futur Terrain, un espace d'écoute, d'inspiration et d'action. Dans un monde en pleine accélération, fait de polycrises, sociales, écologiques, démocratiques, nos vies se transforment profondément au quotidien. Alors, comment inventer des réponses nouvelles adaptées aux enjeux d'aujourd'hui ? Résister, inventer, proposer des approches innovantes sur tous les terrains devient essentiel. Futur Terrain explore cette question à travers les voix des designers qui, par leurs actions et leurs idées, font évoluer les pratiques, changent les méthodes et proposent de nouvelles façons d'agir pour redessiner nos territoires de vie. Chaque émission vous fait découvrir ses voix, leurs idées et leurs projets, autant de manières concrètes de penser, bâtir et habiter le monde autrement. Pour cette première émission, j'ai choisi d'aller au cœur des territoires pour explorer une facette du design. Je me suis rendu à Nontron, en Dordogne, où l'École nationale supérieure des arts décoratifs a installé un programme de résidence dédié au design des mondes ruraux. Là-bas, designers, architectes et artistes en résidence travaillent en étroite collaboration avec les habitants, les acteurs locaux et les collectivités pour répondre aux défis spécifiques des zones rurales. Mon objectif ? Comprendre ce que le design peut réellement apporter à ces territoires, comment il s'adapte à leurs particularités et accompagne leur transformation sociale, économique et environnementale. À travers ces rencontres et ce programme innovant, Futur Terrain vous invite à découvrir comment le design se déploie sur tous les terrains. La résidence design des territoires à Nontron est un programme porté par l'École des arts décoratifs lancé en 2021 sous le nom de Design des mondes ruraux et qui s'inscrit désormais dans un dispositif plus large appelé Design des territoires. Chaque promotion, composée de jeunes designers, architectes, paysagistes ou artistes, s'installe pendant 10 mois en immersion dans un territoire rural, ici le Périgord vert, pour travailler en lien étroit avec les acteurs locaux. L'objectif est d'accompagner la transformation sociale, économique et environnementale du territoire en s'appuyant sur les savoir-faire locaux, en explorant les nouveaux usages et en expérimentant des projets concrets sur place. Ce dispositif fonctionne comme une résidence, un laboratoire d'expérimentation, un bureau d'études, voire un incubateur de projets. La résidence, avec le soutien du ministère de la Culture, souhaite répondre à des crises sociales, écologiques et économiques profondes, révélées notamment par le mouvement des Gilets jaunes. J'ai voulu comprendre comment fonctionne une résidence portée par l'École des arts décoratifs à Nontron. Cette année, en 2024-2025, ils sont 6 à être installés à Nontron. Clémentine Coconnier et Mélanie Savoie, qui sont designers, Jules Flamand et Paul Tanière, architectes, Camille Moreau, paysagiste, et Adèle Signoret, qui est elle aussi designer. Pour cela, je suis allé à la rencontre des résidents pour savoir ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont retenu de ces premiers mois immergés dans le territoire de Nontron. Ils m'ont expliqué que la résidence est avant tout un cadre de recherche et de production qui fonctionne par immersion dans un milieu précis, ici le Périgord Vert en Dordogne. Félix Blanchard est architecte. Il est ancien résident de la résidence de la promotion précédente et actuellement membre du collectif La Mitoyenne. Il est aussi le coordinateur pédagogique pour cette année aux Arts Déco à Nontron et il m'explique l'objectif de cette résidence et pourquoi ce territoire a été choisi comme terrain d'expérimentation.
Et il y a l'ambition de venir confronter les pratiques du design déjà à un contexte rural. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été montée la première antenne, donc l'antenne nontronaise. Et Nontron, ça a été choisi notamment parce que c'est une ville qui porte les caractéristiques d'une petite ville en déprise, avec une baisse du nombre d'habitants, un vieillissement de la population et une ville qui a subi aussi une désindustrialisation importante.
Nontron, c'est une petite ville d'à peu près 3000 habitants qui se situe dans le Périgord nontronais, en Dordogne.
Adèle Signoret.
Il faut savoir que nous, on réside à Nontron pour ce programme, mais en fait, on n'est pas appelé à travailler uniquement sur Nontron. On travaille aussi sur toute la communauté de communes du Périgord nontronais. Donc Nontron est, on va dire, la ville-centre dans le sens où elle fait confluer un petit peu toutes les personnes pour des questions de travail, pour des questions de commission, enfin voilà. Chacun y vient régulièrement, mais c'est pas forcément là qu'il se passe tout. Donc voilà, c'est intéressant de la voir dans un écosystème aussi, puisqu'elle se situe entre deux types de paysages aussi, en lien avec les roches profondes dans les sols. Donc voilà, c'est assez intéressant pour nous de travailler ici.
L'idée est d'utiliser le design pour revitaliser ces territoires en créant des projets adaptés à leurs spécificités, en partant du principe que chaque territoire appelle une réponse différente. Mais alors, c'est quoi le design dans la ruralité ?
Il y a cette idée-là de confronter le métier à la ruralité.
Félix Blanchard.
Et de voir ce que la ruralité fait au métier et réciproquement, et ensuite de venir questionner la méthode du designer en l'envisageant comme quelque chose qui va au-delà d'une production d'objets, mais comme une méthode qui permet de constituer des relations et de valoriser des projets habitants.
La résidence a fait un choix clair, habiter le territoire, le vivre pleinement pour pratiquer un design vraiment ancré dans la réalité locale. Je leur ai demandé quelles problématiques ils avaient retenues pour guider leur travail.
Donc voilà, chaque année, il y a des thématiques qui sont choisies entre l'École des arts décoratifs et les partenaires du programme, et donc notamment les collectivités territoriales.
Clémentine Coconnier.
Cette année, il y avait 3 thématiques qui nous ont été proposées, donc la santé, l'alimentation et l'identité, qui sont des thématiques très larges, mais qui nous permettent de pouvoir les aborder de manière assez libre et de les interpréter.
Il y a plusieurs choses. Il y a l'expérience qu'on tire des années précédentes, parce qu'on peut travailler sur une thématique de la santé avec les résidents et se rendre compte qu'elle ouvre à d'autres enjeux, d'autres thématiques qu'on souhaite approfondir l'année d'après. Donc des fois, ça se passe comme ça. Et après, c'est dans les différentes interactions qu'on a avec les institutions sur le territoire et les acteurs associatifs, hein, peu importe, qui peuvent... On saisit assez vite ensemble avec eux quels enjeux sont pertinents de travailler. Par exemple, la thématique de l'alimentation a très longtemps été une thématique qui a été reconduite parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui en font un enjeu central sur le territoire. Donc ça se fait à la fois par de la concertation, par de la discussion avec les personnes, donc tout ça en amont. À la fois aussi, il y a des choix qui sont faits par l'école et la coordination en fonction des profils des résidents, en fonction du contexte politique aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en considération. Et ensuite, comme disait Clémentine, les thématiques sont assez vastes parce que c'est pas des commandes. Il y a vraiment l'idée que, en fait, c'est plutôt pendant l'année de résidence que va se préciser la commande et là, cette fois-ci, en lien étroit avec les acteurs du territoire. Donc c'est vraiment là qu'est le travail des résidents. C'est de trouver des moyens d'embarquer les personnes issues du territoire avec elles pour faire projet.
En tant que résident résidente, en fait, donc on arrive avec des thèmes très larges, ce qui peut paraître un peu déroutant au début.
Adèle Signoret.
Mais en fait, c'est assez intéressant parce que, en tout cas pour notre année, on a eu l'occasion de rencontrer une diversité d'acteurs sur chacune de ces thématiques. Donc en fait, c'était comme des tables rondes où on invitait producteurs, professionnels du monde de la santé, etc. Et où chacun était amené à parler de ses problématiques, en lien notamment avec son travail, mais aussi de ses envies, de ses projets. Donc c'est des temps qui ont permis d'être au contact vraiment de ces personnes-là et de se rapprocher de leurs questions. Et tout ce temps-là a été suivi et entouré de mois, on va dire, d'enquêtes, même si je me pose un peu des questions par rapport à ce mot, mais en tout cas de rencontres, de recherches, de dessins, d'écrits, pour essayer de mieux comprendre là où on atterrit. Et donc c'est en croisant tout ça qu'on arrive à la fois à formuler des choses plus précises, des questions précises par rapport, par exemple, au grand chapeau que peut être l'alimentation, et qu'on vient à créer en fait aussi des relations, des envies qui nous sont formulées, des possibles liens, et du coup peut-être plus des commandes, ou du moins on arrive à interagir avec quelqu'un pour créer quelque chose après, quoi.
À ce sujet-là, on a choisi de croiser deux problématiques. On a, à la suite de cette enquête et de toutes ces rencontres, en fait, on a remarqué qu'il y avait une très grande porosité entre la thématique de l'alimentation et celle de la santé.
Paul Tanière.
Et du coup, on a choisi un petit peu d'essayer de condenser ces deux problématiques à travers un seul projet. Il y a une grosse question au niveau de la souveraineté alimentaire, parce que c'est un territoire qui produit beaucoup de ressources et beaucoup de nourriture notamment, mais qui retombe très peu, on va dire, sur ce même territoire. Et au niveau de l'alimentation, c'est comme beaucoup de territoires ruraux, il y a beaucoup d'isolement de personnes âgées, de populations.
Ce constat fort de ce territoire n'est pas souverain alimentairement, dans le sens où il est capable de production énormément du fait de ses composantes géologiques, paysagères, etc. Mais la nourriture qui est consommée ne provient pas forcément de lui. Avec toutes les questions aussi autour des différents types d'agriculture, des problématiques de toutes les personnes qui sont dans ce milieu-là. Et sur la santé, beaucoup de remarques autour d'un isolement des personnes, à la fois géographique et sociale, avec un grand manque de professionnels de santé et une surcharge de tous les services de santé. Et du coup, qui conduit des personnes à prendre en charge cette santé-là et d'autres à demeurer un petit peu dans des situations très compliquées. Donc, le croisement entre ces problématiques-là s'est fait au niveau du lien social, on va dire, de la convivialité, dans le sens où ça ne va pas du tout venir boucher les trous d'un système de santé qui a des problématiques, même on le sait, d'ordre national, mais ça va permettre de venir sortir peut-être de l'isolement certaines personnes, en tout cas d'interagir avec elles, tout en proposant des temps de repas et du coup et de cuisine. Et ça permet aussi d'apprendre à transformer ce qui se produit localement et d'apprendre à le consommer, donc d'en avoir envie, puisqu'il y a pas mal de personnes qui n'osent pas aller vers cette alimentation ou qui n'y vont pas pour des questions financières, mais pas seulement culturelles, d'habitude, et j'en oublie plein, mais voilà.
Pour situer le projet, nous avons quitté les locaux de la résidence pour partir en balade dans les rues de Nontron. À cette occasion, ils m'ont décrit les singularités de ce territoire, qui a été le terrain d'aventure de cette résidence tout au long de l'année.
C'est une des rues de Nontron, en vrai.
Clémentine Coconnier.
Mais celle-ci, elle est à côté de la maison et on la parcourt souvent. Et en fait, elle nous a marqué du fait de la vacance du bâti qui existe ici. Il y a beaucoup de maisons qui sont à vendre, certaines qui se détériorent.
Cette rue qu'on traverse, du coup, c'est une... un tissu assez dense de bâtis résidentiels, avec des maisons qui s'enchaînent, et derrière on a des jardins en lanière. Et donc la vacance nous a aussi été racontée par les habitants de cette rue qui, qui nous ont parlé justement de l'impact des maisons qui étaient au fur et à mesure abandonnées, parce qu'il y avait beaucoup de dialogues en fait qui se faisaient entre jardins, où les voisins se retrouvaient du coup dans leur jardin et discutaient ensemble. Les habitants vivent pas forcément bien le fait que cette ville se dégrade. Après, justement, comme on disait, il y a quand même des villes autour qui préservent et sont beaucoup plus animés. Et donc du coup, si on a la chance de pouvoir se mouvoir, on peut en bénéficier. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi ce principe de ville haute et ville basse dans Nontron qui dessert un peu la cause des personnes âgées, puisque du coup, c'est pas forcément facile de se rendre d'un endroit à un autre.
C'est une ville où il se passe plein de choses. En été, il y a des événements tous les soirs. Un peu moins en hiver, ça c'est sûr. Mais en fait, il y a une vie locale quand même assez dynamique, quoi. Ça pose la question, certes, des commerces qui sont vacants dans le bas de la ville, etc. Mais je pense que c'est important. Nous, on a appris aussi cette année à pas tirer des portraits trop trop critiques ou trop uniformes d'un territoire, alors qu'en fait, il est complètement multiple et il évolue aussi.
Ce qui est quand même particulier, c'est que c'est une ville qui est commune-centre de la communauté de communes, donc qui est censée être la ville la plus... qui est la ville avec le plus d'habitants, qui est censée être la ville la plus dynamique, a priori, comme ça. Quand on arrive ici, on pense que c'est le cas. Et en réalité, elle l'est. Comme disait Adèle, il se passe quand même des choses à Nontron, mais elle l'est peut-être moins que d'autres plus petites communes autour. Ce qui en fait... c'est quand même assez étonnant quand on arrive ici, et qu'on découvre ça. Donc c'est une ville, mais pourtant c'est une ville qui a un bassin d'emploi, c'est un bassin d'emploi assez important autour de Nontron. Il y a Hermès, il y a aussi toute une série d'institutions publiques, il y a une cité scolaire qui est assez conséquente, donc il y a des professeurs, il y a beaucoup d'élèves. Donc c'est une ville où il y a beaucoup de passages la journée, mais où les gens n'habitent pas forcément. Ce qui explique aussi la vacance du centre-bourg. Bon, y a d'autres raisons, hein. C'est des bâtis qui sont assez sombres, humides, il y a des problèmes d'humidité, parce que là, on est en fait en dessous, il y a un cours d'eau qui passe, donc le Rhino. Donc voilà, c'est du bâti médiéval pour beaucoup, donc pas très attirant. Donc tout ça fait que c'est une ville où il y a du passage, mais pas beaucoup d'habitants dans le centre-bourg. C'était une ville industrielle. Une région qui était assez connue, qui a eu une riche histoire liée à la présence de forges. Donc il y a eu une forme d'opulence à un moment, et puis c'est connu pour les couteaux de Nontron aussi, donc la coutellerie, donc c'est aussi lié à cette économie-là. Et puis après, dans les années 80, il y avait encore le chemin de fer qui existait, et il y avait... des productions de pantoufles qui étaient assez conséquentes aussi. Donc voilà, c'est un peu avec le départ de ces entreprises-là que ça a commencé à perdre en population.
Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. Je voulais en savoir plus sur leur processus de conception. Qu'est-ce qu'un projet en design au juste ? Quelles sont ses grandes étapes, celles qui guident la création ? Et surtout, comment travaille un designer, ou plus largement, comment fait-on un projet en design ? Un projet en design sur un territoire comme celui de Nontron se déroule en plusieurs grandes phases. Les trois premiers mois sont consacrés à la phase d'enquête. L'arpentage du territoire, observation, rencontre avec les habitants. C'est le moment d'écouter, de s'imprégner, de comprendre la réalité du territoire, ses usages et ses enjeux. Cette immersion permet ensuite d'élaborer des hypothèses et d'identifier des pistes de projets à développer.
Les premières semaines, quand on est arrivé sur le territoire, la coordination nous avait organisé un moment d'arpentage, donc qui nous a permis, qu'on a réalisé à vélo, et qui nous a permis de rencontrer différents acteurs du territoire, habitants, géologues, agronomes, maires de villages et de communes, et qui nous a permis un petit peu de voir à travers eux, on va dire, le spectre des problématiques qu'on nous avait annoncées au début de l'année. Et donc cette période, elle a duré une semaine, on va dire, la période d'arpentage à vélo. Mais c'est une semaine, c'est très court et très dense. Et en fait, ça s'est poursuivi les mois qui ont suivi. Donc de prise de contact, d'aller rencontrer des gens, un petit peu toujours à travers ce spectre des problématiques, pour essayer d'avoir une lecture plus fine et d'adapter notre lecture du territoire. Et cette période d'enquête, je pense qu'elle a duré jusqu'à au moins décembre. Au moins le mois de décembre, vraiment en allant un peu dans toutes les directions à travers le territoire, et même en sortant un petit peu, aller à la rencontre d'associations, d'initiatives, dont on a entendu parler. C'était beaucoup de réseaux, en fait, où on nous parle d'une personne qui est à tel endroit, il faut absolument que vous alliez la voir, tel asso fait quelque chose de super. Et du coup, ça nous a pris quand même beaucoup de temps, et ça nous a fait beaucoup voyager, on va dire, à travers la communauté de communes. Et donc, il y a eu un petit peu une transition à un moment dans l'année, donc aux alentours du mois de janvier, au moment de la restitution, où c'est un petit peu un temps très formel, où il est attendu qu'on présente nos pistes de projet, donc au territoire, mais aussi aller aux personnes de l'école et aux collectivités locales aussi. Mais aussi, c'est un moment qui est pensé pour les habitants, pour qu'ils puissent un petit peu suivre notre avancée, parce qu'après 4 ans à Nontron, il y en a qui suivent assidûment, en fait, le travail de la résidence, et que ça intéresse beaucoup. Et donc après ce temps un petit peu institutionnel, on s'est formé en petits groupes en fonction de nos centres d'intérêt, de l'enquête qu'on avait personnellement menée dans les temps précédents, ensuite se diriger vers un dessin de projet en fonction des thématiques avec lesquelles on avait le plus d'attrait.
Ce rapport entre problématisation et mise en action n'était pas si simple, et que on n'est pas dans une linéarité comme ça du processus de projet. En réalité, les problématiques dont on parle là, c'est des problématiques qui sont déjà identifiées par plein d'acteurs du territoire, par des techniciens, donc nous, on n'est pas des techniciens, on ne vient pas proposer des solutions à des problématiques déjà existantes. En revanche, le temps d'enquête, il permet de d'éprouver ces problématiques-là au quotidien et d'aller à la rencontre des personnes. Donc c'est un temps long que propose la résidence, de 6 mois, en début d'année, où on a le temps de rencontrer plein de gens. Grâce à différents dispositifs, Et c'est presque d'aller comprendre les problématiques, c'est pas un prétexte, parce que c'est important de les saisir, mais ce qui compte tout autant, c'est d'aller rencontrer les gens et d'être en capacité, dans la phase de mise en action des projets, d'aller chercher les personnes parce qu'elles nous identifient. Voilà, c'était pour sortir de cette idée qu'on a problématisé pour apporter ensuite une solution. D'ailleurs, le projet les différents projets, même pas que celui-là, qui sont proposés, ils proposent plein d'ouvertures possibles à la fin de l'année, et pas une seule.
Vient alors la phase de dessin de projet. À partir de ce travail d'observation, les résidents et résidentes conçoivent leurs idées, esquissent des propositions. Chaque année, ils ont ainsi réalisé 4 projets, tous ancrés dans les besoins du territoire. Puis s'ouvre la phase de mise en action. Les idées prennent forme avec la création de prototypes, des essais, des activations concrètes sur le terrain, souvent en co-construction avec les habitants et habitantes. L'idée est de répondre aux usages réels, en transformant ou créant des nouveaux services, lieux, objets ou événements. Enfin, la phase de restitution vient clore ce cycle. C'est le moment de présenter les résultats, les apprentissages et de partager les expériences issues de ces projets.
Dans le premier temps de l'année, comme le disait Paul, d'arpentage, on était plutôt à 6, puisqu'on est 6 praticiens différentes et différents dans cette résidence. Donc 2 designers objets, 1 artiste designer, 2 architectes et 1 designer graphique. Et du coup, on apprenait à se connaître, forcément. Donc c'est aussi une aventure humaine hyper intéressante et parfois déroutante. Et dans le second temps, après janvier, après cette fameuse restitution de mi-parcours, on va dire, eh bien, se sont formulées toutes les différentes pistes, comme l'a dit Paul, en 4 projets différents. Donc 6 personnes, 4 projets. Il y avait des projets collectifs, individuels, en duo. Et du coup, pour le projet auquel j'ai participé, donc que je connais le mieux, c'était un temps qui a amené à une sorte de, presque j'ai envie de dire, de deuxième enquête, dans le sens où c'était une préfiguration un petit peu, une formulation, comme l'a dit Paul. Il faut montrer que c'est possible, montrer qu'il y a une idée claire, et en même temps laisser ouvert la porte pour des personnes, pour qu'elles puissent prendre part, voire réorienter la formulation d'un projet. Donc c'est une période un peu schizophrénique, j'ai envie de dire, un peu spécifique, mais qui amène à affiner un premier propos qui est formulé en janvier, et à le complexifier, en fait, à l'augmenter. Voilà, pour notre cas, c'est ça. Mais par exemple, pour Jules ou Mélanie, c'est des temps de... Donc, c'était des projets plus individuels. Pour l'un d'entre eux, ça représentait un temps d'investissement dans une recyclerie locale. Donc, prendre part à un processus pour arriver ensuite à une proposition de projet. Et de la même manière, pour Mélanie, c'était prendre part à plusieurs processus, donc des processus de cuisson, en l'occurrence. Donc, cuisson dans un four à Nagama, aller auprès des forges d'Étoire, aller dans une tuilerie à Saint-Hilaire. Donc voilà, plusieurs moments où, en fait, eux, ils se sont vraiment immiscés dans des logiques de production. Donc, ce qui est un peu différent en fonction des projets aussi.
Alors, pourquoi ce projet ? Nous voilà arrivés au terme de notre déambulation dans les rues de Nontron. Nous entrons désormais dans un ancien commerce désaffecté, un local mis à disposition des résidents et résidentes. C'est ici que je découvre avec eux les différentes pistes de projets explorées. L'une d'elles retient particulièrement mon attention, la cantine Tout-Terrain. Rappelons l'enjeu principal de ce projet, croiser alimentation et santé sur ce territoire. Mais pourquoi ce projet de cantine solidaire de proximité est-il si important ? Parce qu'il se trouve à la croisée de plusieurs défis majeurs. Le lien social, la santé, la précarité alimentaire, l'alimentation durable et la production paysanne locale. L'objectif est de favoriser les échanges entre les différentes structures qui portent ces enjeux pour instaurer et pérenniser des collaborations efficaces. L'idée est que cette mise en réseau évite le cloisonnement souvent observé, notamment dans le domaine de la santé, ce qui profiterait directement aux usagers. Enfin, cette préfiguration ouvre des pistes pour penser des structures d'accueil qui soient véritablement des lieux ouverts, accueillants et durables. En somme, c'est un projet mêlant cantine et lieu d'accueil porté vers la pérennisation.
Donc cette cuisine, elle se matérialise par quatre modules qui sont en fait des plans de travail qu'on a créés à partir de bois de chêne du territoire, de roues qu'on a récupérées à la recyclerie. Et l'idée, en fait, c'est de proposer un kit de cuisine qui soit opérationnel pour cuisiner dans l'espace public ou dans des espaces en fait qui n'ont pas d'équipement pour cuisiner. Donc on cuisine en fait collectivement et on propose de cuisiner collectivement et de manger ensemble par la suite. Et donc en fait créer ce projet, on s'est inspiré des différents modèles qui existent déjà sur le territoire. On a eu toute une période d'observation au premier semestre auprès des acteurs locaux, et cette période d'observation, elle a évolué vers des périodes plus de participation au second semestre.
La cantine, en fait, on l'a pensée un petit peu en deux axes principaux, en fait. Donc l'axe qu'on a présenté tout à l'heure avec les modules, donc qui permettent de se déplacer et d'aller à la rencontre des populations, donc aller dans d'autres villages, à d'autres endroits, dans des espaces publics. Et on a pensé aussi à une deuxième partie qui serait plus donc située dans une centralité, cette centralité étant Nontron, donc une sorte de, dans un premier temps, de base arrière pour ces modules, donc pour les stocker, pour ranger tout le matériel de cuisine qui est avec. Et donc c'est ce local que l'on a trouvé, donc on nous a parlé d'un propriétaire qui serait prêt à prêter un local pendant 2 ans. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, qu'on est arrivé à trouver le futur local de la cantine Tout-Terrain, version fixe. Et pour l'instant, c'est la version mobile qui est stockée à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on prévoit aussi cette pérennisation du projet avec des acteurs locaux, des associations, pour envisager un futur, on va dire, à cette cantine. Ces quatre modules, ils sont tous constitués donc de chênes, comme l'a dit tout à l'heure Clémentine, qu'on a trouvé localement, qui viennent de forêts qui sont autour de Nontron. Donc ils sont pensés un petit peu sur un système de diable ou de brouette, ça dépend dans quel sens on a envie de les déplacer. Mais l'idée, c'était d'avoir des matériaux locaux et surtout en utiliser pas plus que le nécessaire. Donc ils sont montés sur deux roues avec... qui permettent de les déplacer, en guise de plan de travail, une Tolinox qu'on a fait plier pareil localement dans un atelier qui est d'une vingtaine de minutes de Nontron. Donc certains sont perforés pour permettre l'installation d'un plan de cuisson. Un autre, un évier et donc une arrivée d'eau. Low-tech, ça fonctionne avec une pompe à pied, pour justement permettre d'être un petit peu indépendant, peu importe où on se trouve, et de ne pas forcément avoir besoin d'être raccordé à l'eau. Donc après, c'est quand même une cuisine d'appoint. On a réussi à faire à manger pour une cinquantaine de personnes, mais pour plus, après, il faudrait prévoir peut-être plus en conséquence. Ils sont aussi munis d'un jeu d'ombrière, donc qui permet de cuisiner à l'ombre en cas de soleil. Et ils ont également des rallonges qui viennent se placer sur sur les poignées de déplacement qui sont, elles, en hêtre. Et ça permet d'avoir deux hauteurs réglables pour cuisiner assis ou debout. Donc pour cuisiner soit avec des personnes qui ont besoin de cuisiner assis ou des enfants.
Donc oui, il y a quatre ateliers de cuisine. Les deux premiers sont des ateliers cuisine sans les modules. En fait, c'était un moyen pour nous de commencer à faire vivre le projet, à faire connaître le projet sans qu'il soit encore matérialisé et commencer à le faire vivre aussi avec les partenaires qui se sont engagés auprès de nous. En fait, on s'est rendu compte que en parler c'était bien, mais cuisiner ensemble, c'était mieux, ça permettait de comprendre un peu mieux vers où on voulait aller. Et donc les deux dernières bannières sont du coup des illustrations des ateliers cuisine qu'on a fait avec les modules une fois créés. Donc un banquet du marché avec une association Le Vim à Piégu, qui est un village à une quinzaine de minutes de Nontron, et un banquet du marché avec la sauce paysanne à Nontron cette fois-ci. L'idée c'était aussi de pouvoir expérimenter le projet dans différents lieux avec différentes personnes pour expérimenter ces différents usages.
Par exemple, à Piégu, on a fonctionné avec seulement des invendus du marché. Donc c'était complètement, l'approvisionnement, en tout cas en produits frais, était complètement gratuit. Du coup, ça permettait de proposer des prix complètement solidaires. Là où à Nontron, on travaillait avec un cuisinier. Donc il avait pensé un menu et donc on a acheté des ingrédients. Donc ça pose aussi des questions de comment est-ce qu'on adapte le prix dans ces cas-là. Donc voilà, c'était en fait plein de petits tests à faire varier différents curseurs pour apprivoiser un petit peu ce qui pouvait se faire ou non en fonction des contextes.
La première contrainte aussi, c'était de faire une cuisine itinérante, c'était de pouvoir déjà les déplacer. Donc ça conditionne beaucoup leur forme et leur format, aussi par le fait qu'on avait un véhicule qui nous était mis à disposition. Et l'idée, c'était de pouvoir déplacer tout en même temps. Et du coup, ça a déjà beaucoup conditionné, en fait, l'encombrement global de l'objet. Et après, oui, c'est comme le dit Clémentine, c'est avec des échanges, donc avec des associations ou des cuisiniers, donc qui nous ont dit que oui, la Tolinox, c'était super, une question alimentaire et pour faire des plans de travail. Question hygiène, la gastronorme, c'est aussi super parce qu'on peut prendre des choses qui viennent de la restauration collective et directement les adapter sur les modules.
Il y a aussi eu toute la question de comment après les avoir transportés en camion, comme dit Paul, comment on les déplace sur site. Donc toute cette question d'adaptation aux roues, donc là c'est des roues de vélo de réemploi qu'on a récupérées à la recyclerie de Brantôme, le tricycle enchanté. Et en fait, comment on les réadapte donc là, on a conçu tout un profilé de fourche, si tu veux, un petit peu réinterprété. C'est des tests aussi pour nous, parce qu'en fait, on n'avait jamais fait ça. Donc, on a été accueillis par les services techniques de la ville de Nontron pour pouvoir souder, entre autres, ou découper du métal. Ça nous a beaucoup aidés. Et c'était super aussi, dans ces moments de chantier, d'interagir avec des personnes du coin.
C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui font du lien social, qui aussi se réunissent autour d'événements conviviaux, etc. Après aussi, la proposition de la cantine, ça pallie à un manque de pouvoir cuisiner collectivement et pas seulement manger collectivement. Par exemple, le CMP, donc le Centre Médico-Psychologique, qui est une structure de santé, eux, ils avaient ce projet-là de pouvoir faire des activités avec leurs patients de cuisine collective. Et donc, du coup, voilà, on agit plutôt au moment de la cuisine.
Cette cantine éphémère s'articule autour de trois volets essentiels. Le premier, cuisiner ensemble. C'est l'acte qui réunit des publics très différents. Les personnes âgées ou isolées, les travailleurs du secteur, les familles, les touristes de passage. Autour de petites équipes guidées, ils préparent des repas basés sur des thèmes variés. Une recette spéciale, la mise en valeur d'un aliment ou simplement un menu de saison. Ces moments favorisent la transmission des gestes et traditions culinaires et invitent chacun chacune à se réapproprier sa propre alimentation. Le deuxième volet, manger ensemble. Il s'agit de redonner aux habitants la maîtrise de leur alimentation durable dans un territoire où la précarité alimentaire coexiste, paradoxalement avec une agriculture riche mais fragile. Autour de la table, on crée un lieu d'échange, de convivialité et de solidarité. Enfin, le troisième volet, c'est favoriser l'accès aux soins, une réflexion sur la santé globale, où le lien social et l'accès à une alimentation de qualité sont au cœur des enjeux. Dans ce territoire, marqué par le vieillissement et la précarité, la cantine lutte contre l'isolement. Cuisiner pour les autres responsabilise, donne du sens, renforce l'estime de soi. Et elle ouvre la porte vers des structures d'aide, souvent méconnues ou difficiles d'accès, en leur donnant une visibilité hors les murs. Aujourd'hui, la cantine se présente sous forme de modules de cuisine mobiles, prêts à circuler et à s'installer dans les 28 communes du bassin d'Ontronais. Futur terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. Alors, concrètement, comment ce projet prend-il forme par le design? La cantine tout-terrain, c'est l'expérimentation d'un lieu modulable et mobile, pensé pour croiser les enjeux d'accès aux soins et d'alimentation. Un espace ouvert à toutes et à tous, où les habitants et habitantes peuvent se retrouver pour cuisiner ensemble et partager un repas. Ce projet est le fruit d'une recherche en acte, à la rencontre du territoire, des habitants, des agriculteurs, agricultrices, d'associations et de professionnels de santé. Avec eux, les résidents et résidentes ont cuisiné, imaginé des menus réfléchis aux modes de fonctionnement et aux formes de gouvernance possibles. Alors, après avoir découvert les projets comme la cantine tout-terrain, la question qui se pose est la suivante. Quels ont été les retours et les réactions du territoire, ceux des habitants et habitantes et des acteurs actrices de tout-terrain? Quel impact concret cette résidence a-t-elle eu? Et puisque la résidence a aussi une vocation pédagogique, quels enseignements ont été tirés, quelles compétences ont développé les résidents tout au long de cette expérience?
Il y a une vraie autonomie des résidents qui mènent leurs projets ensemble comme ils l'entendent. Il y a pu avoir des évaluations, enfin, comment dire, un regard critique a été posé sur les projets par la venue de sociologues sur des temps précis qui ont fait des études d'impact du programme. C'était le cas par exemple l'année dernière, donc c'est des masters qui viennent faire un travail de recherche. Ça a été le cas aussi pendant la première année ou dans la deuxième année du programme, il me semble. Voilà. Et sinon, pour revenir à la restitution, les retours, ils comptent à ce moment-là, mais en fait, les retours qui comptent tout autant, c'est les retours qu'on a tout au long de l'année, pendant les échanges, pendant les constructions de projets. Et c'est plus là que se construit, que s'envisage la pérennité des projets. C'est pendant les temps de travail avec les personnes, pendant la résidence, quoi. Donc la restitution, elle est importante parce qu'elle marque un moment, voilà. Mais en fait, elle pourrait presque ne pas exister si le travail de pérennisation des projets est bien fait. Voilà, ça pourrait fonctionner comme ça. Ça existe parce que ça permet d'être identifié, je pense, auprès de personnes qui nous connaîtraient pas, voilà.
Pour ma part, donc, j'ai été diplômée du master architecture, environnement et culture constructive à Grenoble, qui est un master qui est déjà très porté sur des questions de société et de présence dans les territoires, mais qui l'est, dans les possibilités qu'ont à offrir les écoles d'architecture à leurs étudiants. Et donc, ça m'a ouvert ces portes de volonté d'être avec les habitants, de passer des nuits chez l'habitant, de faire des arpentages, des marches collectives. Ça n'a pas permis d'être approfondi. Là où, avec Design des Territoires, c'était vraiment une année de permanence longue, donc de présence, d'engagement vraiment humain total, de dialogue avec les acteurs publics, quelque chose que j'avais pu toucher du doigt mais pas encore explorer encore plus, de dialogue avec les associations aussi sur ce pan-là, puisqu'on a beaucoup travaillé avec des associations, de comprendre un petit peu le milieu associatif, les structures du milieu associatif, comment le milieu associatif fonctionne, donc comment il se subventionne ou comment il essaye de se passer de subventionnement.
Donc tout, enfin, des questions financières et logistiques qui peuvent paraître inintéressantes comme ça, mais en fait qui sont hyper importantes pour comprendre le cadre de nos métiers, en tout cas quand on a envie de travailler en territoire. Pareil sur la question de la santé, très très intéressant de comprendre que ça ne dépend pas seulement du ou de la professionnelle qui souhaite ou non s'installer ici, mais bien d'institutions au-delà en fait même du territoire dans lequel on travaille, de la communauté de communes, mais d'institutions régionales, étatiques. De comprendre en fait tous ces systèmes, ces écosystèmes, ça permet de replacer nos pratiques au, disons, je ne sais pas si c'est au juste endroit, mais de les comprendre dans, dans une société, quoi.
Puis le fait aussi qu'on puisse participer à la création d'une commande, ça nous permet de nous donner aussi des clés et des compétences en termes de gestion de projet qui sont tout à fait enrichissantes, là où, où souvent en tant que concepteur on est amené à répondre à des commandes qui sont déjà faites. Et donc du coup là on a, enfin la résidence donne l'occasion de faire des projets qui font sens pour nous et de d'autant s'engager professionnellement que en tant que citoyen, qu'individu. Du coup, c'est tout à fait riche de pouvoir vraiment s'impliquer sur un temps long et aussi le fait de pouvoir donner de pouvoir suivre des projets qui font sens pour nous, c'est aussi dû au fait qu'on n'a pas ces contraintes économiques pendant un an. Donc c'est un aspect un peu biaisé parce que ça permet plein de choses pendant un an, mais ça questionne aussi sur la possibilité de poursuivre ce genre de démarche hors résidence et de pouvoir le faire sans se mettre dans une situation de précarité.
Oui, c'est un vrai enjeu, parce qu'effectivement, pour appuyer à ce que disait Clémentine, le cadre est très particulier de cette résidence, elle offre un temps qu'on dédie à de la réflexion, quoi, donc ce qui est très rare, avec une bourse, un système de bourse. Mais il permet de prendre le temps de cerner des leviers auxquels on n'a pas accès en école ou quand le temps est moins présent, quand on a moins de temps. Et des leviers qui nous permettent d'aller chercher des fonds, de construire des économies de projets auxquelles on n'aurait pas pensé avant parce qu'on est plus à l'aise à travailler avec ces ressources moins matérielles, disons. Issus des territoires. Et donc là, je vais prendre l'exemple de nous, le collectif La Mitoyenne, dont je fais partie, composé des anciens résidents de l'année dernière. On a pour certains projets réussi à aller chercher des subventions pour poursuivre la démarche. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a aussi autre chose, la résidence, elle permet de confronter aussi des personnes à nos pratiques. Et donc de les habituer à des méthodes de travail, de montrer ce que ça peut apporter. Et donc ensuite, c'est plus facile d'aller chercher, de construire des collaborations pour travailler sur ces territoires-là. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est de plus en plus facile grâce aussi à ces rencontres entre nos pratiques et les territoires dans lesquels on travaille.
Au-delà de la création d'objets ou de services, comment le design, par ses démarches et ses projets comme la cantine tout-terrain, parvient-il réellement contribuer à transformer un territoire, ses usages, ses relations humaines? Quels leviers et quels impacts concrets peuvent émerger d'une telle approche située, en prise avec le terrain et les habitants? Et ça veut dire quoi, produire des effets en design? Pour comprendre ce que signifie réellement produire des effets en design, il est utile de se référer aux réflexions du philosophe Stéphane Vial. Il est auteur du court traité du design publié aux presses universitaires de France. Selon lui, le design ne se limite pas à la simple création d'objets ou de formes. Il produit des effets multiples et imbriqués. D'abord, il y a l'effet ontophanique. Le design modifie notre manière d'expérimenter et de voir le monde. Il renouvelle notre expérience vécue. Ensuite, l'effet calimorphique désigne la création de formes harmonieuses et belles, répondant à un besoin fondamental de beauté dans notre quotidien. Enfin, l'effet socioplastique. C'est la capacité du design à transformer la société en proposant des formes matérielles qui modifient notre façon d'être ensemble. Dans le cadre de la résidence à Nontron, ces effets se traduisent concrètement dans des projets comme la cantine tout-terrain, un espace qui réinvente les liens sociaux, la manière de cuisiner, de manger ensemble et ce qui impacte la vie collective du territoire. Alors, professionnellement, quelles sont les suites pour ces jeunes designers qui ont participé à cette résidence? La promotion précédente a choisi de prolonger l'expérience en se constituant en collectif, la Mitoyenne. Ce collectif pluridisciplinaire, composé de designers, architectes, paysagistes et artistes, a décidé de pérenniser leur présence sur le territoire et de poursuivre leur projet. Parmi leurs actions, ils ont coordonné la transformation temporaire d'une ancienne gare, baptisée La Loco, en lieu d'animation culturelle et d'expérimentation, impliquant activement habitants et acteurs locaux. En parallèle, le collectif accompagne la nouvelle promotion de designers à Nontron, assurant un encadrement pédagogique et poursuivant le travail avec les collectivités locales.
On est six. On est composé donc de trois designers, designeuses, un designer artiste parmi les trois, et deux paysagistes et un architecte, donc moi-même. Et on a travaillé pendant un an ensemble au sein de la résidence, et la particularité, c'était qu'on travaillait vraiment ensemble tout le temps. Enfin, tout le temps. En tout cas, on avait toujours le souci de croiser nos disciplines et de prendre l'avis de toutes et tous sur tous les projets qui étaient menés pendant la résidence. C'est pas le cas tous les ans, donc nous, on avait fait le choix de travailler comme ça. C'est pas du tout imposé. Et parce qu'on travaillait ensemble, on travaillait bien ensemble, qu'on prenait plaisir à travailler ensemble, et parce que les projets qu'on a amorcés au cours de la résidence demandaient plus de temps pour atterrir, on a fait le choix de s'installer ici. Et en parallèle, on a pris en charge la coordination pédagogique du programme, voilà, ce qui nous permettait aussi donc d'avoir un soutien économique pour pouvoir nous lancer d'aller vers cette envie de plus facilement quoi, de s'installer sur le territoire. Voilà, et en parallèle, on mène des projets principalement avec des collectivités sur le territoire, des projets qu'on souhaite le plus inclusif. On mène des ateliers participatifs sur, par exemple, des projets d'aménagement d'espaces publics, voilà. Pour donner un exemple. Et on souhaite tout le temps être à l'articulation entre institutions et habitants, et ça, on le garde du programme. Enfin, c'est vraiment grâce au programme qu'on a pu prendre le temps de se construire une posture collective, quoi. Donc c'est aussi... voilà, nous, ça a créé ça, le programme Design des mondes ruraux. L'idée, c'est que ça reste très libre, très ouvert, et que ça puisse créer d'autres manières de travailler ensemble, ou pas, mais de se construire des modèles économiques qui sont propres à chacun... en milieu rural. Concrètement, s'il n'y avait pas eu la résidence, nous six, là, du collectif, on ne serait pas là. Donc c'est grâce à la résidence qu'on a trouvé un endroit où on peut vivre en travaillant avec ces démarches-là, quoi. Donc c'est bien la preuve que ça fonctionne quand même à un endroit. C'est un vrai soutien à la pratique du designer en milieu rural.
On a rencontré plusieurs fois, par exemple, les personnes de la communauté de communes qui sont intéressées par ce qu'on fait. On peut pas le nier. Après, comment ce programme peut être soutenu il l'est déjà, en fait, publiquement par la communauté de communes et les certaines communes locales. Par exemple, la maison, elle est mise à disposition par la communauté de communes. Mais en fait, ça pose aussi les questions de est-ce que ces personnes... pas ces personnes, ces institutions peuvent s'investir davantage, pas forcément en fait dans le cadre financier où elles se trouvent aujourd'hui. Nous, à un moment, pour donner un exemple, j'avais un peu la petite idée derrière la tête d'aller questionner sur la possibilité d'envisager la cantine tout-terrain comme un service public, en fait, comme une sorte de projet d'intérêt général, et du coup questionner sur la possibilité des acteurs publics, puisque c'est leur rôle de venir s'intégrer dans ces dynamiques-là. Or, en fait, il y a des problématiques financières qui les concernent déjà pour vivre en tant que structure. Et donc ça questionne aussi toutes ces possibles interactions qui n'existent finalement pas forcément totalement, quoi.
Le contexte politique aussi actuel, notamment avec les élections qui arrivent, et économique, fait que... Enfin, il n'y a pas que les institutions publiques avec lesquelles on peut travailler. On peut aussi travailler avec des associations, mais aussi des entreprises. Voilà. Et donc là, c'est une possibilité, c'est aussi d'aller s'adresser à ces acteurs-là, dans ce contexte-là. Et par exemple, pour l'année prochaine, les thématiques de travail qui seront proposées aux résidents ont été pensées pour qu'ils ne soient pas dans la nécessité d'aller travailler avec des institutions, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ils seraient amenés à travailler avec eux. Ça nous amène à nous poser des questions de méthodologie concernant nos métiers. Comment faire pour qu'on coûte le moins cher possible sans perdre en qualité, ou comment faire que la sobriété de nos actions soit à la fois économique et écologique, et comment faire pour qu'on agisse exactement au bon endroit. Et il me semble que là, le temps de la résidence permet de bien cerner à quel endroit on peut agir avec précision, avec une économie d'effort. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un temps long de présence.
Nous voilà à la fin de cet épisode de Futur Terrain sur les ondes de Jet FM, une émission radio de Pascal Couffin dédiée à la transformation des territoires par le design. Dans ce changement d'époque, face aux enjeux et aux crises qui nous affectent tous, le sentiment d'être désemparé peut l'emporter. Alors pourquoi changer si c'est perdu d'avance? Mais pourtant, ça vaudrait le coup d'essayer, non? Résister, proposer des approches innovantes sur tous les terrains, c'est vital. Dans les entreprises, les collectivités, les administrations, dans les associations, bref, sur tous les terrains, il est essentiel d'inventer de nouvelles méthodes, de nouvelles façons d'agir pour redessiner nos territoires de vie. Futur Terrain existe pour mettre en lumière ces pratiques, mais aussi pour créer un dialogue. C'est pourquoi je vous invite à réagir, à partager vos expériences, vos pratiques situées sur le territoire et vos innovations, qu'elles soient artisanales, industrielles ou liées aux services publics. Toutes ces initiatives partagent un même objectif, mieux vivre sur nos territoires malgré les crises, en ouvrant de nouveaux imaginaires mêlant art et poésie, avec une ambition claire, refaire de la politique. Alors rejoignez la conversation, échangeons, partageons nos expériences sur Instagram, @futur.terrain. A très vite pour un nouvel épisode de Futur Terrain, un nouveau récit de designers engagés pour imaginer et transformer nos territoires. Avec modestie et enthousiasme, continuons à inventer par le design nos territoires de demain. Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design.